11h05, donc on va commencer. J'ai le regret de vous dire que Hugo Berlhomme ne sera finalement pas des nôtres, ce qui est un petit peu dommage parce que lui, je pense qu'il avait plein de choses à nous dire sur la mer, mais on va se débrouiller à quatre et trouver une façon d'en parler qui vous convienne. Alors, le titre de cette table ronde, c'est des vers que vous avez sans doute reconnus, qui sont les vers de Baudelaire, qui commencent par « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». On s'arrête à cette lecture et à cette première phrase, comme souvent quand on cite des poèmes, mais le reste du poème que je réévoquerai au cours de cette table ronde n'est pas si plein d'élan et plein d'optimisme que ça. Et du coup, j'aimerais bien qu'on finisse par parler de cette inquiétude autour de la mer et pas seulement de l'optimisme et du côté lyrique des vers de Baudelaire. Alors, moi, ma première question, quand j'ai pensé à vos livres et à cette inspiration de la mer, c'était de me dire, est-ce que la mer est particulièrement un lieu propice au récit imaginaire du simple fait de son insondabilité? Est-ce que c'est ça qui la rend fascinante pour les auteurs d'imaginaire?
Totalement. La mer, c'est une, c'est effectivement, tu avais commencé à le dire. La mer, finalement, elle a deux dimensions de base. D'une part, c'est un espace infini qui stimule l'imagination avant tout par sa dimension de liberté. On a tous en tête, je pense, les romans d'aventure maritime, les histoires de pirates et tout, avec un capitaine de bateau, hein, c'est le roi du monde, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, etc. Mais en même temps, la mer est éminemment dangereuse. Et surtout, je pense qu'il y a une... Moi, c'est un peu la dimension que je me suis efforcé d'aborder rapport à la mer dans la trilogie Léviathan. C'est que la mer, à la fois, c'est cet espace de liberté, mais la liberté, elle a finalement peut avoir un côté inquiétant, et par son étendue. Et en particulier, la mer, en plus d'être symbole de liberté, peut être, je pense, symbole d'inconscient, et nous forcer à nous confronter à nous-mêmes. Moi, il m'arrive de partir en mer en volontaire écologique, et la mer... Mais finalement, comme tout grand espace, je pense qu'on peut en dire autant d'un désert, sauf que moi, j'aime pas trop les déserts parce qu'il fait trop chaud. La nature vous confronte à vous-même et révèle sur vous des choses intéressantes qu'on n'a pas forcément quand on est confronté au bruit et à l'empressement de la vie citadine et du quotidien.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est directement en écho avec le deuxième vers de ce poème qui dit « La mer est ton miroir, tu contemples ton âme ». Et c'est ce que vient de dire Lionel.
Qui regarde l'abysse le regarde à son tour.
Anne, pour vous, est-ce que la mer est source d'inspiration à cause de son mystère?
Oui, alors moi, mon roman se passe donc au XVIIIe siècle. Et j'adore regarder les cartes du XVIIIe siècle parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore tous les océans. Et quand ils ne connaissaient pas, en fait, ils laissaient un espace libre sur la carte et ils écrivaient « Ici sont les monstres ». Donc, ce qui prouve bien que l'inconnu, à l'époque, faisait peur. Et en même temps, c'était un fabuleux moyen de communication, puisque c'est pas par les voies maritimes qu'à l'époque, que c'était les plus rapides, finalement. Elles étaient beaucoup plus rapides que les voies terrestres. Et c'est d'ailleurs en cherchant l'accès maritime aux Indes que Christophe Colomb a fini par découvrir l'Amérique. Et en même temps, toujours dans mon roman, ils s'en servent aussi comme moyen pour transporter des esclaves, et notamment d'Afrique dans les Antilles. Donc c'est un moyen de communication à double tranche, on va dire, tout dépend de ce qu'on en fait.
Un moyen de contrition aussi, quoi. Daniel, pour vous, la mer, est-ce la dernière terra incognita, finalement?
Pour moi, la mer, c'est la source de vie, en fait. Hein. C'est principalement cet aspect-là que j'ai toujours privilégié dans mes livres. À un tel point, d'ailleurs, que dans mon premier roman, L'or bleu, qui traitait du problème de l'eau, j'ai carrément vidé la mer Méditerranée pour montrer que si la Terre était en train de mourir, c'était par le manque d'eau, en fait, et donc le manque des mers. Oui, c'est ça, on en est sorti. Hein, c'est de là que nous venons tous. C'est vrai que... alors moi, j'aime la regarder de loin. Quand je suis dessus, je suis malade. C'est vrai que J'ai un mal de mer absolument terrible.
C'est difficile de la chérir, du coup.
Alors, je la chéris en tant que spectacle absolument merveilleux, toujours renouvelé. C'est un grand écran magnifique. Quand je suis au bord de l'océan, j'adore ça. Mais aussitôt que je vais au contact direct, ça ne va plus du tout. Alors, c'est pour ça peut-être que j'ai commencé par en vider une, ou que la plupart de mes héros, de mes personnages dans les abîmes d'outre-mer ne font qu'y passer en profondeur pour s'en aller après. Quoi. Donc,
le contact, une forme de vengeance personnelle contre la mer.
Oui.
Je me suis demandé aussi si on ne pouvait pas faire le parallèle avec la jungle. Il y a plein d'auteurs du 19e ou des auteurs plus anciens en anticipation, en fiction, Riceboro, qui ont choisi la jungle comme lieu d'exploration. Est-ce que la mer peut être un même lieu d'exploration au cœur du récit en tant qu'inconnu, que sombre, que représentant les mystères, les monstres dont parlait Anne?
Je pense que 20 000 lieues sous les mers en est la preuve absolument flagrante. Moi, j'ai travaillé sur Jules Verne pour une anthologie demandée par Flammarion pour des élèves de niveau 4e. Et j'ai lu beaucoup de romans des voyages extraordinaires. J'avais lu des extraits des grands romans traditionnels. Et en fait, je n'avais jamais lu 20 000 lieues sous les mers en entier. Je l'ai lu à l'occasion. J'ai trouvé des passages absolument barbants. Je ne me cache pas pour dire que... Oui. Et en fait... Mais donc, toutes ces descriptions extraordinaires des fonds sous-marins, de la faune, de la flore, etc. Enfin bon, c'est ça. C'est effectivement une jungle hein, dans laquelle Nemo se plaît à se cacher, etc. Et oui, on est certainement dans un parallèle évident de Terra Incognita.
C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, puisque environ 5% des fonds marins sont vraiment connus et cartographiés, qu'on est évidemment, on a en tête, je ne sais pas vous, mais on a en tête le fait qu'on est descendu dans les plus profondes fosses, notamment la fosse des Mariannes. On a en fait des vols habités sur la Lune, mais on a fait aussi, on est descendu dans les profondeurs et dans les fosses les plus profondes, mais ce n'est pas une habitude. La plupart des formes de vie, d'ailleurs, des grandes profondeurs sont inobservables ailleurs que là puisqu'elles sont construites de façon particulière pour résister à la pression. Si vous les sortez de cet emplacement de leur habitat naturel, elles se délitent ou même elles explosent avec le retour à la surface. Donc dommage que Gouverlum ne soit pas là parce qu'il en parlera très bien. En ce qui me concerne, l'exploration dans Léviathan, c'est plus une exploration de l'inconscience. C'est un thriller, un roman initiatique, donc où le personnage principal est à la recherche de lui-même. Il y a beaucoup d'actions parce que des gens l'empêchent d'arriver à la vérité qui est la sienne. Et ça revient un peu à une exploration une exploration de son inconscient. Je pense que ce qui est intéressant avec la dimension symbolique de l'océan, c'est qu'effectivement, mécaniquement, c'est un endroit difficile d'accès, donc qui peut être le stade de tout un tas d'aventures. Mais je pense que des milieux naturels difficiles d'accès, c'est peut-être celui qui porte le plus profondément sur l'inconscient par son obscurité et par son froid. Et c'est probablement le seul à avoir cette dimension psychanalytique que moi je me suis amusé à aborder dans Léviathan. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que fréquemment on imagine, et c'est vrai, que la mer est un endroit de vie, un endroit très vivant. C'est là d'où vient la mer, c'est là d'où vient la vie, bien évidemment. C'est là d'où elle est née, puisque c'est un milieu beaucoup plus stable que le milieu terrestre, où les conditions environnementales bougent beaucoup plus vite. Maintenant, il faut savoir que la plus grande partie de la mer, c'est un désert, en fait. La vie est principalement concentrée sur les franges côtières, où il y a la lumière, où il y a des courants, beaucoup d'échanges. Si vous allez comparativement au milieu du Pacifique, ça va être un désert, il n'y a pas grand chose en fait là-bas. Et sans parler même des fonds marins ou des grands fonds où finalement la vie va se trouver principalement autour des ce qu'on appelle les fumées noires ou les fumées blancs, bref des monticules d'activité géologique où va y avoir une forme de moteur chimique qui va permettre à de la vie de vivre. Mais les grandes plaines abyssales, finalement il n'y a pas grand chose là-dessus. Donc la mer, lieu de vie, oui, mais comparativement en fait finalement sur les côtes.
J'allais dire, en fait, juste celles qu'on peut toucher, quoi, juste celles qu'on peut approcher, où on peut être pêcheur, explorateur, dont on peut partir et vers laquelle on peut revenir.
Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y a rien, évidemment, hein, mais comparativement, l'endroit où la vie est la plus importante, ça va être sur le plateau continental, c'est-à-dire dans, pour schématiser très globalement, 0 à 30, 50 mètres de profondeur, ce qui est à peu près l'endroit où la lumière perce.
Je me suis dit, bon alors finalement je ne vais pas le proposer à Daniel vu ce qu'elle a dit sur son mal de mer, mais en pensant à ce sujet et à vos œuvres, je me suis dit que, est-ce que du coup quand on est inspiré par la mer pour écrire, est-ce que vous avez rêvé de vivre sur Caladan, la planète couverte d'eau de Frank Herbert dans Dune? Est-ce que c'est des choses qui vous ont fait... Daniel, non. Hein.
Moi je me la suis fabriquée, ma planète maritime. Alors donc, justement les personnages qui sont sur la planète vivent plus dessous qu'en surface. Mais il suffit de voir dans toutes les exoplanètes qu'on découvre en ce moment, là, on en a des chapelets entiers qui nous arrivent à intervalles réguliers, la fascination qu'on peut avoir pour les découvertes des planètes dont on pense qu'elles sont des planètes océans. Si on nous annonce qu'on découvre une planète désert, ça fait effectivement penser à Dune, mais bon, c'est moins charmeur que de dire ah là il y a peut-être une planète océan, elle est peut-être couverte de glace, mais il y a peut-être de l'eau en dessous, et ça quand je dis charmeur, c'est au sens de charme, d'avoir envie d'aller découvrir les charmes de cette planète là.
Mais enfin, moi j'ai pas le mal de mer, mais pour m'être retrouvé à sauter d'un bateau pour nager en pleine mer, panique absolue quoi, le sombre, le noir en dessous, et quand on fait un peu de plongée, moi j'ai le vertige des profondeurs. C'est fascinant de se dire que quand on est dans l'eau, on a les mêmes sensations de peur et de crainte qu'on peut avoir.
Oui, c'est le même vocabulaire que dans l'air ensuite. C'est ce qui est fascinant. On parle de tourbillon, on parle de courant, on parle de vortex. Enfin, on a pratiquement le même vocabulaire pour l'eau que pour l'atmosphère. C'est assez fascinant. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé.
Et je me suis demandé aussi si les créatures marines n'étaient pas un peu les dernières chimères qui passionnent. Est-ce que, comme on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à les remonter, comme vient de nous dire Lionel, est-ce que du coup, c'est pas aussi un endroit où on peut imaginer des choses qu'on... Je pense à Nessie, mais même si c'est moins la mer. Oui, c'est ce que... L'endroit où vivent les monstres. Justement, Anne Rossi, je me suis posé la question en pensant à votre personnage... principal, est-ce qu'on peut vraiment considérer que le nom que vous avez choisi pour lui, est-ce qu'on peut s'appeler Styx et avoir un rapport normal à la mer ou à l'élément liquide?
Alors, en l'occurrence, son nom vient plutôt de sa capacité à communiquer avec les esprits des morts. Et il n'aime pas trop l'eau puisque lui, il maîtrise l'élément du feu. Et le pauvre, il va devoir traverser tout l'océan pour aller là où il veut.
Pour Daniel, je crois avoir compris que votre règle d'écriture était celle des 3 A, amour, aventure et ailleurs. Avec ce qu'on sait des changements climatiques, avec ce qu'on sait de l'écologie, avec ce qu'on sait de ce qu'on est en train de faire très très droit dans le mur avec notre planète, est-ce que votre rapport à l'écriture serait pas devenu un peu aridité, asphyxie et abandon? Est-ce qu'il reste encore un peu d'espoir? Voilà, les 3 A, moi je les ai transformés en me disant, vu ce qui se passe en ce moment,
il restera quand même toujours les histoires d'amour là au milieu même.
Mais c'est le A donc que vous avez mis en premier.
Oui, moi dans mes livres, ce sont toujours des orientations écologiques, des problématiques écologiques pour attirer l'attention de mes jeunes lecteurs. Moi je m'adresse à des lecteurs de niveau collège ou début de lycée, et ça descend même pour certains de mes romans jusqu'au cycle 3 de primaire. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant pour un enfant que de découvrir un monde différent avec une problématique qui est finalement grossie à partir de notre propre planète. Je leur dis toujours que je me sers de la science-fiction comme d'une loupe. Je prends un problème actuel qui est déjà assez important, mais je le projette dans le futur en grossissant ça jusque presque aux limites effectivement d'un monde complet. Alors au niveau de l'asphyxie, j'ai fait la planète poubelle dans les oubliés de Vulcain. L'aridité, j'ai créé des déserts dans les sondeurs des sables avec des déserts extrêmement agressifs, l'un qui engloutit dans des sables acides les gens qui vivraient à la surface. Enfin bon, j'essaie de montrer, en grossissant les choses, en forçant vraiment le trait, que nous avons déjà des problématiques semblables sur Terre, et que dans les abîmes d'outre-mer, par exemple, la survie des espèces qui sont justement des grandes profondeurs, etc., dépend essentiellement du comportement humain, donc de ce qu'on décide de faire. Moi, je suis atterré par l'histoire, par exemple, de ce continent d'ordures qui navigue au milieu du Pacifique. Enfin bon, quand j'ai parlé de ça pour la première fois, j'ai un petit peu l'œil science-fiction consiste à aller glaner dans les informations le petit détail encore qui n'est qu'un entrefilet. Donc la première fois où j'ai lu quelque chose là-dessus dans un journal ou dans une revue, je ne sais plus, j'ai cherché tout de suite des documents un petit peu plus approfondis et j'ai parlé de ça avec mes élèves, et mes élèves n'arrivaient pas du tout à imaginer qu'on puisse avoir une masse qui dérivait aussi importante que ça au milieu du Pacifique. Je ne sais même plus, on appelle ça la soupe, comment ça s'appelle ?
Oui, parce que ça ressemble à une soupe plus qu'à un continent. Oui,
c'est des particules de plastique de date assez fine, d'à peu près grosse comme ça, enfin ça dépend. Mais effectivement, c'est en gros c'est une espèce de marécage de plastique qui dérive et qui fait des kilomètres et des kilomètres de long. Je ne sais plus les dimensions, mais c'est immense et qui est pris dans le gir. En fait, il y a des grands courants, des grandes masses de courants dans les océans, et notamment il est pris dans le gir nord-pacifique et qui est en train de se balader comme ça, lentement, comme un peu dans l'œil d'un cyclone au sein du Pacifique Nord, si je ne me trompe pas.
Alors, dans le poème de Baudelaire, il y a une phrase qui m'a fait sourire peut-être vous allez pouvoir nous en parler sur vos héros, peut-être un peu moins sur le vôtre, Anne. Mais il dit « Un homme libre est toujours ténébreux et discret ». Est-ce que vous pensez que vos héros sont des hommes ténébreux et discrets, ou est-ce que vous voyez autrement l'homme libre ? Comment vous voyez l'homme libre ?
Wow.
Je sais, il y a un moment où je deviens métaphysique.
Toujours. Non, mais c'est très bien. Chez moi, l'homme libre, en l'occurrence, est totalement ténébreux et discret, puisque Léviathan, dans la trilogie, c'est à la fois... Enfin, Léviathan, il y a plusieurs interprétations. Léviathan, c'est le monstre marin, c'est la baleine. C'est intéressant que vous parliez des monstres marins tout à l'heure, parce qu'il y a 200 ans, le monstre marin, c'était la baleine. Aujourd'hui, la baleine, c'est l'ami des enfants.
C'est le monstre à défendre.
Sympathique. C'est le monstre à défendre, effectivement. C'est le gentil monstre, comme l'est l'éléphant, etc. Léviathan, à la base, diverses acceptations, mais Léviathan, finalement, ça se rattache à toute l'imagerie chaotique, ténébreuse, de ce qui est en dehors du monde, en dehors de l'ordre, de ce qui est connu par l'esprit humain. Fallait pas poser une question métaphysique. Je pense que l'homme. Alors, d'abord, pour répondre par rapport au bouquin, effectivement, dans Léviathan, l'homme libre, il est ténébreux et solitaire, puisque le roman, qui est un thriller, mais qui est surtout un roman initiatique, on part d'un personnage qui est un homme sans histoire, père d'un gamin, qui est au centre d'une machination qu'il n'imagine pas, et dont en fait la libération va passer à travers une exploration personnelle, qui va passer à travers l'exploration de la mer, à la fois dans sa dimension dans sa dimension du voyage, puisqu'il y a du roman de voyage, et aussi dans sa dimension symbolique, à travers l'exploration de l'inconscient. Je pense que la mer est un excellent professeur, c'est surtout un excellent professeur de fascination. La plupart des populations occidentales aisées vivent plutôt dans des cadres urbains, dirons-nous, et c'est très facile de perdre contact, malheureusement, dans les vies parfois très effrénées, où on a un peu l'impression d'être le hamster sur la roue en train de courir sans arriver au bout. La nature et l'océan en particulier, c'est un excellent professeur de fascination, et je pense que c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle. Carl Gustav Jung disait dans les années, si je ne me trompe pas, 60-70, il disait qu'une des plus grandes conquêtes de l'esprit humain, finalement, c'est la raison, et c'est vrai, la raison, c'est un bon outil formidable. Ça envoie des gens sur la Lune, ça permet d'inventer Internet, ça c'est quand même vachement sympa. Mais en faisant ça, est-ce qu'on ne perd pas un peu une connexion avec l'inconscient, avec le mythologique, qui finalement au cœur une forme d'émerveillement et sans entrer dans le sentiment religieux, mais ça procède de ça aussi, il y a une forme d'émerveillement, et je pense que l'esprit humain a besoin de cet émerveillement pour s'épanouir. Le truc, c'est que l'émerveillement, c'est pas quantifiable. Ça ne se rentre pas dans des cases, ça ne se débite pas, ça ne se vend pas en bourse, et bon, ça ne sert à rien. Sauf que non, c'est ce qui nourrit l'esprit, c'est ce qui nourrit l'âme. Et donc, je n'ai pas totalement répondu à la question, je pense, mais pour revenir, est-ce que, de façon générale, est-ce que l'homme libre est un peu ténébreux et solitaire ? Je pense que la liberté procède aussi d'une part de secret et d'une secret sur soi, parce que moins les gens projettent d'attente sur vous et plus vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Bien. Moi, j'ai bien entendu le côté fascinant de la mer, là encore dans le poème, parce que moi, je m'en suis servi comme trame. Je me suis dit, Stéphanie Nico me donne un titre, allons-y, continuons jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout de ce poème. Il y a une partie qui, à la fin du poème, qui indique que et la mer et l'homme sont des éléments de violence et de carnage et de mort, comme le dit Baudelaire, assez similaires, et que c'est pour ça que la fascination est constante à l'égard de la mer. Est-ce qu'il y a... C'est pas la mer n'est pas consciemment un élément de carnage, je voyais.
Oui, parce que j'allais dire, effectivement, c'est une image très belle et c'est cool et tout. La mer, elle est juste la mer, elle est ce qu'elle est. Le monde naturel, il est ce qu'il est. Et quand on dit, ouais, la mer est violente, etc., c'est une question que m'a posée il y a quelques... Pas vous. Mais est-ce que le monde naturel ne se vengerait pas sur l'homme ? Le monde naturel, il est juste ce qu'il est. Par contre, ce qui est important et qu'il ne faut pas... C'est pas pour autant qu'il faut nier cette dimension-là. On projette, nous, en tant qu'être humain, avec un cerveau, mais aussi un cœur et un inconscient, et un émerveillement et une faculté à rêver qui est finalement ce qui nourrit nos âmes, faute de meilleurs termes, c'est une dimension extrêmement importante. Est-ce que ça nous évoque ? C'est pas parce que je dis oui, la mer, c'est la mer, effectivement, de temps en temps, il y a des tempêtes, point. Nous, ça nous évoque des choses extrêmement fortes. Et c'est Fabrice Collin qui disait il y a quelques années sur son blog, finalement, la littérature adulte, ça consiste finalement qu'à parler d'au lecteur. Ça revient toujours à parler au lecteur de la mort. Je pense que l'adulte mais Daniel pourra probablement parler peut-être mieux que moi. Je pense que l'adulte a un gros problème, c'est qu'il a une conscience très aiguë de la mort et que la littérature permet peut-être d'appréhender ces questions-là, la finitude de l'existence, de notre propre existence, qui est quand même un truc assez tragique finalement. C'est quand même dommage. Sauf si on croit en la réincarnation, mais comme disait Woody Allen de façon très prosaïque, j'ai pas envie d'être immortel à travers mon œuvre. J'aimerais bien être immortel à travers le fait de pas mourir.
Il disait aussi, je ne crois pas à la vie après la mort, mais j'emporte un slip de rechange. Moins poétique, mais pragmatique.
Donc, voilà, ça, on revient toujours à cette dimension qui est finalement, comme avec tous les symboles, qui est vraiment très difficile à cerner, et finalement, quand on la cerne, on la tue, qui est cette dimension très inconnue, très vaste, plus vaste que soi. Et tout ce que l'humain a cette conscience qu'il confronte constamment toujours à quelque chose qui est plus vaste que soi. Et après, il se pose la question, et peut-être c'est timidement une des rôles de littérature de se poser ces questions-là, de se dire, je suis là dans cet univers qui est beaucoup plus grand que moi, où ai-je ma place, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que ça m'évoque ? Et l'océan est évidemment un très bon vecteur de ça, avec son immensité qu'on ne peut pas englober en soi, peut-être plus encore que l'espace, parce que la mer, c'est juste à côté.
Anne, vous avez choisi un roman jeunesse, mais en même temps, j'ai été fascinée par l'idée que est-ce qu'on peut vraiment votre héros, je crois que je dévoile juste le début, tue son père par accident. Est-ce que là aussi, on peut vraiment considérer que c'est un accident, ou est-ce que c'est une forme de destin qui se met en route pour lui ?
Ben, le fait qu'il tue son père va quand même déclencher le fait qu'il va partir et échapper à la vie à laquelle il ne voulait pas du tout qu'il ne voulait pas du tout mener. Et il a toujours été fasciné par la mer, justement, il veut partir pour échapper à son destin. Bon, le problème, c'est qu'il va en rencontrer un autre en cours de route, comme quoi partir à l'aventure, c'est jamais garanti d'avance. Mais oui, c'est à l'époque, la mer, je pense, représentait une fascination pour beaucoup de gens. Et je suis épatée par des gens qui s'aventuraient dans des mers. À l'époque, ils ne savaient pas quand ils allaient en venir, ni s'ils en reviendraient un jour. Hein. C'était la traversée de l'Atlantique, ça prenait plusieurs mois. Et il y avait des tempêtes, il y avait beaucoup d'aléas qui pouvaient se produire en cours de route.
Et donc, il est à la fois le provocateur, le provocateur et le maître de son destin, du coup.
Tout à fait. En voulant échapper à un destin, il va en rencontrer un autre.
On reviendra à l'anthologie après, mais peut-être que vous pouvez toutes les deux, avant que Lionel y réponde, puisqu'il est un des directeurs de cette anthologie, la spéciale Barde et Sirène de cette année. J'aurais aimé savoir si pour vous, le fait de raconter la mer, ça tient plus de la musicalité que d'autres lieux. Enfin, moi, il m'a semblé qu'il y avait... Je pensais à un roman de Karina Rosenfeld qui est La Symphonie des Abysses. Et il m'a semblé qu'avec la mer, il y avait quelque chose qui était... Je pense que c'est pas pour rien, Barde et Sirène. Tu nous en parleras après, mais il y avait quelque chose qui était lié à la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ou pas du tout?
Alors moi, la musique m'a inspirée, puisque j'ai écrit un roman qui s'intitule Cantoria, où toute l'énergie d'une planète est produite par la voix des chanteurs. Donc, on n'est pas très loin des sirènes, là aussi, hein, dans la mesure où c'est cette force extraordinaire de la voix humaine, du chant, qui propulse les vaisseaux. Mais si tant est qu'il y ait une mer dans Cantoria, c'est la mer des étoiles. Enfin, c'est l'immensité de l'espace. Mais c'est pareil, là, on est pareil. Que je disais tout à l'heure pour le vocabulaire, on navigue dans l'espace comme on navigue sur les mers. Je voulais juste revenir, si vous m'autorisez, sur le héros libre et ténébreux. Le héros libre et ténébreux, moi, je l'ai dans Les Abîmes d'Outre-mer. Alors, j'hésite toujours à parler de ce roman maintenant, parce qu'il a eu un public extraordinairement fidèle pendant des années, mais les éditions Mango ayant cessé plus ou moins d'exploiter la trilogie d'Outre-mer, j'ai récupéré mes droits. Donc j'ai même racheté le stock, et j'avoue que je suis absolument sidérée d'en voir encore à vendre ici. Les Abîmes d'Outre-mer, c'est un roman qui a été bradé à la Grande Braderie de Lille 15 jours avant sa parution et qui est en vente à Épinal 15 jours après sa destruction. Je trouve que ce roman... Comme quoi la mer, ça s'accroche, hein, quand même. Là,
comme la moule au rocher.
Vraiment, là, on est comme la moule au rocher, voilà. Et dans Les Abîmes d'Outre-mer, moi, j'ai présenté un adolescent, puisque justement, ce que je voulais dire, c'était que le héros solitaire et ténébreux peut bien sûr être un héros adolescent. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Il est juste un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins métaphysique, enfin, en profondeur psychanalytique qu'un héros pour un roman adulte. Mais si tant est qu'il y ait une tranche d'âge qui s'interroge sur la mort, c'est bien l'adolescence. Hein. Alors là, on ne peut pas en douter. Et Mel, le héros des Abîmes d'Outre-mer, est pilote d'un abîme. Alors tout le mystère du début du roman tourne autour de la nature des abîmes. Il y a une catastrophe qui s'apparente à celle du Titanic au début du roman, où un vaisseau spatial est détruit pendant une traversée. Vous voyez comme quoi on a toujours le même vocabulaire.
On a déjà un vaisseau.
Voilà, on a un vaisseau, on a une traversée, et ce vaisseau spatial est heurté par quelque chose. Alors souvent mes jeunes lecteurs m'ont demandé « mais quoi ?» Je dis « je sais pas, ça se passe avant le roman », alors ça les étonne toujours que je réponde « après tout, on ne sait pas tout quand on écrit un livre ». Mais bref, c'est l'iceberg du Titanic, le vaisseau est éventré, il n'y a pas assez de chaloupes de sauvetage, en fait, etc. Et mon héroïne est une jeune journaliste qui filme tout en direct pour balancer ça sur un réseau galactique, évidemment à la recherche du scoop le plus spectaculaire possible. Et arrive un vaisseau pour les aider qui est un abîme d'Outre-mer. Et personne ne sait exactement ce que sont ces vaisseaux parce que personne n'a jamais pu interviewer, filmer, avoir un contact avec un pilote d'abîme. Et donc Sandiane va faire tout ce qu'elle peut pour être en contact avec un pilote d'abîme. Et lorsqu'elle va rencontrer Mel, qui est justement le beau héros ténébreux et solitaire, elle va craquer complètement pour lui, ce qui sera réciproque d'ailleurs. Dans tous les romans de Daniel Martinigol, il y a une histoire d'amour. Et c'est pas pour rien que je suis absolument ravie que Anne Golon, l'auteur d'Angélique Marquise des Anges, soit là, parce que c'est elle qui a modelé chez moi ce goût pour les romans d'amour.
Et pas que chez vous. puisqu'on en est là, et je fais une toute petite aparté, lisez les romans d'Anne Golon, ne passez pas par le film, ne passez pas par le film kitsch, ne passez pas par le film actuel, passez par le roman d'Anne Golon. Si vous aimez les romans d'aventure, peu importe que l'héroïne soit féminine, c'est un roman d'aventure formidable.
Oui, oui, puis c'est un super personnage féminin. Je peux vous dire que ça vous aguerrit pour toute la vie à l'idée. Alors là, je devrais être là en disant femme libre, toujours tu chercheras la mer. Hein. Angélique, c'est un personnage féminin absolument extraordinaire. Oui, oui, il faut oublier les films, il faut lire les livres. Et donc, lorsque Sandiane et Mel vont se rencontrer, elle va vouloir absolument percer le secret de ce jeune pilote d'abîme et elle va découvrir qu'en fait, les vaisseaux sont des vaisseaux vivants. Et ces bio-vaisseaux sont à la fois capables de se déplacer dans les océans très profonds de la planète Outre-mer et de se rendre très loin dans l'espace. C'est une matrice protectrice. Il y a deux films qui m'ont terrorisé dans ma vie. Le premier, c'est Les Dents de la Mer. Je n'avais jamais pensé une seule seconde aux requins en me baignant. J'adore. Alors, j'aime pas être dessus, mais j'aime être dedans. J'adore le contact avec la mer. Et de penser aux requins que j'avais vus dans Les Dents de la Mer, ça m'a jamais quitté. Hein. Je ne peux pas faire autrement quand je me baigne en mer que de penser qu'il y a peut-être des dents en dessous.
Gérard Lenormand a essayé Non, ça n'a pas marché.
Non, ça n'a pas marché. Et le deuxième film qui m'a terrorisé totalement, c'est Alien, parce que pour moi, un vaisseau spatial, c'est une coque protectrice, c'est une matrice, c'est ce qu'on retrouve dans mes abîmes d'outre-mer. Et de voir cette grosse bébête qui venait bouffer tout le monde à l'intérieur d'un vaisseau spatial, ça m'a profondément marqué. Et donc j'ai fait exactement l'inverse dans Les Abîmes d'Outre-mer. On a des vaisseaux vivants qui sont extrêmement protecteurs, qui sont des matrices confortables. Et ce héros seul, solitaire, ténébreux, bien évidemment, il va être amené à réviser un petit peu son jugement lorsqu'il va lui aussi tomber amoureux de cette jeune journaliste. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'oppositions, mais rassurez-vous, ça finit bien.
Anne, oui. de l'amour aussi dans...
Donc, oui, bien sûr, toujours. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs, Angélique, Marquis César.
Comme quoi,
Oui, on parlait de musique, je crois, à la base. En fait.
Oui, on est revenu sur le héros ténébreux, la musique.
Dans les vaisseaux du XVIIIe siècle, il faut savoir que quand on traversait l'océan et que c'était le calme plat, on s'embêtait quand même copieusement à bord. Hein. En plus, très peu de gens savaient lire à l'époque, les pauvres, donc ils ne pouvaient même pas bouquiner pour ça.
Pas de Kindle, rien.
Voilà, c'est terrible. Et donc, ils embarquaient toujours des musiciens. Avec eux à bord des bateaux pour se distraire, justement, partant de calme plat. Donc, d'où l'importance de la musique.
Est-ce que les musiciens étaient les premiers sacrifiés en cas de disette, de voyage qui dure trop longtemps?
Ils touchaient leur part chez les pirates, notamment, ils touchaient leur part du butin comme les autres. Hein.
Le bar de pirates. Je me suis sûre que vous n'y avez pas pensé. Justement, on est reparti sur la musique. Quand on choisit d'intituler une anthologie Barde et Sirène, est-ce que le rapport entre l'eau et la musique semble une évidence? Alors, ou c'est le monstre sirène qui fait parler le barde?
En fait, donc les anthos des Imaginales, leur but c'est avant tout de faire une anthologie de fantasy. Pour deux raisons. D'une part, pour simplement déjà faire plaisir au public avec des bons récits de fantasy qui couvrent toute l'envergure du spectre. De l'aventure, de l'épique aussi, de l'émotion, etc. Donc vraiment tout ce que la fantasy peut offrir, à la fois dans sa veine, entre guillemets, traditionnelle qu'on imagine, le médiéval fantastique, etc., mais aussi vers ses courants un peu plus récents, comme la fantasy urbaine, ou même jusqu'au surréalisme. C'est arrivé, on n'a pas forcément cette année un texte des sexes surréalistes, on a eu les années précédentes, c'est juste pas présenté comme ça. L'autre aspect, c'est qu'il y a presque une dimension assumée de manifeste à ces entos-là. C'est que la fantasy, c'est bien, on aime ça. Je pense que tout le monde est convaincu ici que la fantasy, c'est cool. Et qu'on veut aussi pouvoir le présenter et dire regardez, et en plus, c'est la fantasy française, francophone, pardon, mes excuses pour les auteurs belges et suisses qui nous font l'amitié et l'honneur de participer à cette anthologie, fantasy de langue française, et qu'elle a des choses à dire et qu'elle a. Rien à envier aux maîtres anglo-américains. Donc, la fantasy avant tout. Et un des traits caractéristiques de la fantasy, c'est quand même son bestiaire. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec Sylvie Miller, qui est ma co-directrice, c'est que, dans, en tout cas dans les trois entours dont on s'est occupé, c'est qu'on a voulu à chaque fois avoir une figure classique qui est du bestiaire. Une figure classique, disons, une figure immédiatement identifiable. Mais un archétype, et un archétype, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un cliché, c'est qu'au contraire, un archétype, ça vous évoque tout un tas d'images. Je vous parle, pour prendre les trois précédents, je vous parle de dragon, je vous parle d'elfe, je vous parle de sirène, pour prendre les trois archétypes du bestiaire. Vous voyez tous ce que c'est, mais vous avez tous des réactions différentes et vous avez tous des images différentes vis-à-vis de ça. Pareil pour la sirène. La sirène, pour certains, ça va être la petite sirène d'Andersen, pour d'autres, ça va être la sirène de Disney, et pour d'autres encore, ça va être la sirène antique de l'Antiquité. Donc partie de là. Après, c'est un archétype fort qu'on n'avait pas encore abordé, et le contrepartie, c'est qu'on voit un rôle aussi archétypal de la fantasy. Ce qui venait se mettre de façon immédiate face à la sirène, en humain, c'était le barde, qui est le conteur, qui est également le chanteur, etc. Mais le barde, c'est aussi un peu le roublard, presque le voleur de jeux de rôle. D'ailleurs, c'est classé dans la même catégorie, pour s'il y en a qui jouent à des dans la salle.
Le mec qui vous hypnotise autant que la sirène peut le faire.
Tout à fait, exactement, mais de façon humaine, et qui peut même être éventuellement un train de savate dans le fond de l'auberge, un peu sous, etc. Et même dans certaines traditions, le barde, c'est Merlin. Donc voilà, la dimension musicale, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle est venue finalement, elle a émergé un peu par osmose, pour reprendre un terme du vocabulaire aquatique, elle a émergé par osmose des textes des auteurs, en fait, et c'est toujours assez, nous on a une idée, et ce qui est assez marrant, en fait, c'est finalement, c'est comme quand on écrit un bouquin, en général, on part sur une idée et on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge. Même quand on construit l'anthologie, on s'est rendu compte, collégialement avec les auteurs, qu'il y avait autre chose qui avait émergé, parce que la fantasy, puis je vais terminer là-dessus, a des rapports très très forts avec la musique. Les auteurs de fantasy sont souvent inspirés par la musique, et inversement, la fantasy inspire la musique. Il y a beaucoup d'auteurs de fantasy et de SF ont écrit pour des groupes. Le cas le plus connu, peut-être, c'est Michael Moorcock, qui écrivait pour le Blue Oyster Cult, et qui notamment écrivait des chansons qui étaient des textes étaient directement inspiré ou qui découlait directement de sa saga Elric. Il écrivait aussi pour le groupe Hawkwind, etc. Donc il y a des liens très forts. Donc ça, ce qui est assez intéressant, cette dimension musicale a vraiment émergé, encore vocabulaire aquatique, de la construction de l'anthologie et des textes. Tout ce rapport avec la musique et avec l'océan est apparu. Nous, avant toute chose, on voulait faire une anthologie de fantasy, de bonne fantasy, qui fasse rêver les lecteurs et qu'on puisse toujours montrer à ceux qui n'aiment pas ça en disant si c'est bien, et les francophones écrivent de la bonne fantasy, et c'en est l'exemple.
Je vais personnellement remercier Daniel de m'avoir fait comprendre pourquoi j'ai du mal avec la science-fiction et avec les vaisseaux. C'est que moi, le vaisseau, je ne le vois pas comme une, je sais pas si certains ça parlera, mais je ne le vois pas comme une matrice protectrice, je le vois comme un sous-marin dans lequel on est enfermé. C'est-à-dire il y a quelque chose de la notion d'enfermement et sur un navire en pleine mer et sur un vaisseau dans l'espace qui me semble insupportable. Mais dans le vaisseau de l'espace, pour moi, ça ressemble vraiment au sous-marin. Il n'y a pas moyen de s'en sortir.
C'est une excellente comparaison. Moi, j'en ai visité deux dans ma vie de sous-marin.
Vous avez visité des vaisseaux spatiaux.
Non, des vaisseaux spatiaux. Ceci dit, j'ai visité justement, c'est intéressant à voir, la station Mir qui est présentée à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et justement, j'allais faire le rapprochement. Un sous-marin, c'est un endroit absolument fascinant parce qu'il n'y a pas un seul centimètre carré qui ne soit pas utilisé pour quelque chose. Quand on voit les lignes de fil, tous les petits espaces utilisés, enfin, etc., c'est fascinant. Et alors, je vous encourage, si vous avez l'occasion d'aller, moi j'en ai visité un à Cherbourg, c'était le terrible, c'était un sous-marin nucléaire qui a été désarmé, tant mieux. Et puis il y en a un à Saint-Nazaire aussi, c'est ces deux-là que j'ai vus. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire quand on pense que, justement, on est avec toute la pression de l'eau là-dedans, etc. Et puis, dans la maquette de la station Mir à la Cité de l'Espace, j'ai été fasciné aussi par le fait... Alors, C'est presque logique qu'il y en ait partout, puisque quand vous êtes en impesanteur, vous pouvez vous balader dans tous les sens, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de sol, etc. Donc automatiquement, on comprend que les astronautes puissent se balader là-dedans pour aller un coup à droite, un coup à gauche, ce qui avait été merveilleusement représenté dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui le seul film de science-fiction où les vaisseaux ne font pas de bruit dans l'espace. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup de le regarder. Et d'écouter la musique de Strauss. Et donc, c'est vrai que ce sont deux univers extrêmement semblables. Hein. Un vaisseau spatial, il y a quelques films qui ont montré des vaisseaux avec d'immenses salles, etc. C'est impossible. Le jour où on fabriquera un vaisseau spatial, on essaiera de mettre le maximum de choses dans le minimum de volume. D'abord parce que ça va coûter cher d'en faire un gros. Et puis ensuite, laisser du vide avec toute la pression. On va plutôt s'occuper de faire une coque extrêmement solide qui résiste aux pressions, parce qu'elles sont semblables. Là aussi, on a aussi l'idée de la pression du vide comme de la pression de l'eau. On se retrouve dans le même monde.
Moi, je n'irai dans les vaisseaux spatiaux que quand ils auront la taille de l'Enterprise. Sinon, ce n'est pas la peine. Parce que comme Anne me le disait, en plus dans les sous-marins, en plus que tout soit petit, bien rangé, alors quand on est un petit peu bordélique, en plus, oubliez le sous-marin. Mais surtout, la promiscuité. Et ça, c'est valable pour les vaisseaux en mer aussi. Oui, il y a cette, je pense qu'il y a des choses qu'on dit sur les vacances. Par exemple, ne jamais prévoir une croisière avec des amis en vacances, parce que c'est le meilleur moyen de se disputer très fort. Et...
J'ai la chance de pouvoir, parce que dans une vie précédente, j'étais biologiste marin, il m'arrive encore de partir en volontaire écologique. C'est vrai que quand vous partez, ça a l'air sympa, vous dites, je pars effectivement avec 10 personnes sur un bateau au milieu de... Donc moi, j'étais en prot, il y a 2 ans, j'étais dans les Hébrides, en Écosse. Donc c'est 12 jours avec 10 gus que vous ne connaissez pas. Et vous prenez une douche à peu près tous les 5 jours parce qu'il faut économiser l'eau. On est au 21e siècle. Et ce qui est rigolo à propos de l'isolement, c'est quand même que quand on fait donc, le briefing pour les volontaires qui arrivent, moi j'étais assistant scientifique, mais quand on fait le briefing pour les règles de sécurité, donc on s'imagine partir en bateau sur un voilier, les tropiques, tiens, si nous nous arrêtions là et que nous plongeons dans l'eau turquoise. Bon, alors on est en Écosse, donc pas trop. On avait d'ailleurs eu un été très sympathique. Dans les 3 semaines à terre, il y avait à peu près 5 jours de soleil. Les Écossais étaient super ravis, c'était un bel été. Mais donc faites le briefing donc c'est de l'eau, hein. On est en Écosse, on est en août, bon, même s'il fait un temps dégueulasse, on se dit que ça va. Non, on dit... Vraiment, aux volontaires, faisant le tour de sécurité du bateau, on montre l'eau et on fait ça, ce truc-là, là, vous le traitez comme de la lave en fusion. Si vous tombez dedans, vous survivez 30 minutes, à peu près. Donc, c'est alors qu'on est en été dans l'eau, quoi. Mais c'est vrai, il fait froid, on est vite perdu, vous survivez 30 minutes dans les eaux écossaises en août.
Moi, j'ai l'expérience, je me permets une petite expérience de... essayer de nager avec les dauphins en Nouvelle-Zélande. Vous avez une combinaison intégrale. On vous les met à l'eau une première fois en disant ça y est, ils sont là, faut y aller. Et là, la première fois, je dis ouais, mais c'est pour des dauphins. Alors on y va. Et quand les dauphins se cassent parce que vous les intéressez pas tellement, et qu'on vous dit bon bah remontez, il va falloir replonger la deuxième fois, c'est super dur. Effectivement, l'eau ressemble à un ennemi, quoi. Bon, là, il y a un dauphin qui tourne autour de vous, c'est super cool. Mais c'est pas un élément, c'est pas la douche, quoi, c'est pas votre bain, ça a rien à voir avec le bleu des mers du sud.
D'ailleurs, sur les marins d'autrefois ne savaient pas nager, et c'était volontaire parce que comme ça ils souffraient moins longtemps quand ils tombaient à l'eau.
Puis ça bouge beaucoup, la mer. Moi, j'ai découvert que j'avais le mal de mer sur le paquebot France. Alors, tout le monde peut s'imaginer qu'un paquebot de 300 mètres de long, c'est parfaitement stable. Oui, tant qu'il n'y a pas de vagues. Dans l'Atlantique, on n'a absolument rien senti. J'ai fait avec mes grands-parents qui ont voulu absolument m'emmener avec eux faire une croisière, depuis Le Havre jusqu'à Cannes. Tant qu'on a été dans l'Atlantique, on avait vraiment l'impression, effectivement, d'être dans un palace. C'était génial. Alors là, il n'y a pas de promiscuité. Hein. On est tranquille. Il y a des grandes
salles,
etc. Voilà, on est dans un Enterprise. Et puis, on a passé Gibraltar. Et là, on a eu une tempête. Et les tempêtes en Méditerranée, je peux vous dire que c'est quelque chose. Des vagues de 15 mètres... Alors donc, un bateau qui craque de tous les côtés. Alors moi, paniqué, j'ai essayé de demander au steward ce qui se passait. On m'a dit, ne vous inquiétez pas, il est souple. Si vous aviez une maquette d'un mètre de long du France, vous pourriez lui faire toucher la proue et la poupe. Ça vous rassure pas vraiment. Et donc, on m'a dit, vous savez, toutes les cloisons sont inifugées, donc il faut qu'elles puissent être démontables facilement, etc. Donc il y a du jeu entre toutes les cloisons. Enfin, bref,
en plus, c'est un mécano.
Ça craquait de tous les côtés, ça bougeait dans tous les sens, c'était épouvantable. J'ai passé une nuit infernale. Donc, au bout d'un moment, je suis allé dans la cabine de mes grands-parents où ma grand-mère vivait le même enfer que moi. Mon grand-père avait apparemment, lui, le pied marin. Et donc, quand on me dit, hein, mais c'est parce que tu es monté sur des petits bateaux, tiens, mon œil, oui, ça prend exactement la même chose sur les gros bateaux. Et donc, oui, tout ça pour dire que cette expérience de la mer que chacun peut avoir, c'est de toute façon toujours quelque chose qui est en liaison avec le corps. C'est inévitable. Enfin, on a froid, on a chaud, on gèle, on en meurt, etc. On est malade. Sommes-nous vraiment adaptés à la mer? On en est peut-être sortis depuis trop
pas
longtemps.
Pas pour rien. On en est sortis, pas pour rien, voilà. Pas forcément pour y retourner. Est-ce qu'il y a une question dans la salle avant qu'on arrive à la fin de cette table ronde? Est-ce que vous avez envie de savoir quelque chose en particulier sur l'œuvre de nos invités ou une question sur la mer, tout simplement, je ne sais pas, à laquelle on pourrait répondre parce que notre spécialiste marin n'étant pas là, on est juste des inventeurs de mer. Est-ce que vous prenez des libertés, justement, moi ce qui me fascine, je ne suis pas très fan des romans qui se passent avec des pirates et tout ça, parce que moi il y a un truc qui me fatigue, c'est le vocabulaire marin. J'ai mis un temps fou à comprendre que bâbord c'était gauche et tribord c'était droite, et que je m'en souviens, le moyen mnémotechnique, alors je vous le donne, gauche, tribord, le A, oui, bravo, droite, voilà, le R. Voilà, donc la deuxième lettre est ce qui vous permet de... Mais quand on est sur un bateau et quelqu'un vous dit à bâbord et qu'il faut 10 minutes pour savoir si c'est à gauche ou à droite, ça ne marche pas. Est-ce que ce vocabulaire, ça vous...
Juste un mot pour le vocabulaire, est-ce que c'est... Alors, c'est pas justement pour que des types en polo se la pètent au yacht club le soir. Pourquoi est-ce que le vocabulaire est si compliqué? C'est qu'il y a une raison, c'est parce que quand vous êtes justement dans une tempête méditerranéenne ou autre, où tout craque de partout et que vous êtes dans un bateau, pour le coup, fait en coquille de noix et où c'est pas forcément fait pour que la proue et la poupe se touchent, le truc, c'est que quand il faut agir pour une manœuvre, c'est important que chaque truc ait un nom de façon à ce qu'on se retrouve pas en train de dire « Le truc, là, le machin, tire ! Non, pas celui-là, bordel, l'autre !»
Je comprends mieux. Mais voilà, quand même, le mec qui a inventé les mots, il était sadique, quoi, il y a quelque chose.
Surtout que souvent, c'est l'inverse en anglais et en français, parce qu'évidemment, ça ne peut pas être normal.
Alors moi, le paradoxe, c'est que j'ai mes deux permis bateau.
Et je les regarde partir.
Voilà. Parce que le grand-père en question, qui était donc passionné du liquide eau, de la mer ou des rivières, nous a légué un bateau. Et mon père et mon frère, à l'époque, n'avaient absolument pas le temps d'aller passer le permis bateau. Donc c'est ma mère et moi qui nous sommes dévoués. Parce qu'il fallait absolument qu'à bord du bateau, il y ait quelqu'un qui ait le permis. Donc nous sommes allés passer le permis bateau. Alors donc j'ai appris tout le vocabulaire, le tribord, le tricône, le triangle, bâbord, la balise, etc. Enfin bon, j'ai tout oublié. Je n'ai jamais piloté un bateau de ma vie. En fait, je me contentais d'être assise dedans pour faire la justification auprès des gens qui nous auraient contrôlés qu'il y avait bien quelqu'un à bord qui avait le permis bateau. Mais
oui, c'est celle qui est malade là au fond. Hein.
Elle va nous servir à rien.
Comme quoi, c'est assez. Et un jour, je me suis renseigné parce que quand même, les bateaux sont fascinants. Il y en a de magnifiques. Enfin, quand on voit le salon de la plaisance, etc. Il y en a qui sont des véritables merveilles de luxe. Enfin bon. Et un jour, à la foire de Lyon, je me suis approché d'un vendeur de bateaux qui s'est dit tout de suite, ah, une cliente potentielle. Et je lui dis, j'ai mes permis bateaux. Je voudrais savoir si on doit renouveler à un moment ou à un autre. Il me dit, non, c'est à vie. Alors donc, ça fait des années que je ne suis pas monté sur un bateau, mais oui, voilà, je pourrais d'un seul coup prendre les commandes
En même temps, en mer, a priori.
Enfin, bon, pas trop loin, hein, c'est un permis bateau qui ne... Je risque pas d'aller heurter un paquebot.
Mais c'est là où on est le plus dangereux, finalement, tant qu'on est au port. Parce qu'après, en mer, on croise peu de gens tout près, quoi. Mais au port, ça peut être dangereux.
Donc, en fait, je crois que si on avait quelque chose... personnellement, si j'avais une conclusion à apporter à tout ça, c'est que la mer, c'est vraiment une source de paradoxes absolument incroyable. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut écrire un roman sur la mer, avoir son permis bateau et avoir le mal de mer et ne jamais avoir piloté un bateau.
Et pour faire le parallèle entre l'homme, une source là aussi de mystère insondable, je vous cite cette dernière phrase du poème de Baudelaire. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous.